Il avait été jeté, en octobre, entre les javelles mortes du toit. Les cloches sonnaient pour la fête des saints quand il lança ses premières lames vertes hors du fourreau de la paille. Auguste, au petit matin et le soir, quand la nuit n'était pas trop noire, le regardait. Jeunesse des herbes qui plient jusqu'aux racines et se couchent et jouent avec le vent. Quand la tempête soufflait de la Hague, que la maison était secouée comme par un tremblement de terre, la mère et le fils, entre lesquels la flamme de la lampe elle-même s'affolait, éveillés de la torpeur qui les saisissait de bonheur, à la veillée, disaient « Les roches du Ras Blanchard crient miséricorde ». Chacun d'eux, en esprit, voyait ce duvet vert, aplati, sifflant une chanson perdue dans celle de l'ouragan et caressant les vieilles javelles de son espèce. Les froids de décembre et de janvier furent rudes cette année-là. Auguste, qu'une seule pensée menait, ne manquait guère, après avoir dit « Fait froid ce soir », de prendre une des bûches rangées sur champ, le long de la cheminée, et de la jeter sur les braises mourantes. « Tu fais de la dépense inutile !» disait sa mère. Le grand valet ne répondait pas directement. Il secouait la tête d'un air content et disait « Chauffe-toi, mon froment !» Il lui arrivait de dire tout à coup, les jours de vent, « Tiens-toi ferme !» Et quand il pleuvait, « Bois ton sou !» La moisson de là-haut l'occupait, même dans le travail du jour à Renivast. Mais il se gardait d'en parler. Et qui se serait douté qu'il y eût deux pentes de blé, une reliure de livres en blavé, entre les ormes, si ce n'est les corneilles qui, à la brunante, regagnent pour y dormir l'îlot de Tatiou? Marie ne savait pas que son sort dépendit du sort d'un champ de blé et du plus petit, assurément, qu'on n'eût jamais vu depuis Cherbourg jusqu'à Mortain et à Saint-Hilaire-du-Harcouët. Une fois seulement, au printemps, elle avait de nouveau rencontré le grand Auguste dans une rue de Valognes. Il l'avait salué sans pouvoir lui parler, car il accompagnait le fermier de Renivas qui allait acheter une nouvelle faucheuse et tenait à la vie de son valet. Mais elle avait compris que rien n'avait changé depuis l'automne. Mademoiselle Rivière, non plus, n'avait pas changé d'humeur. Le blé croissait en silence, le rêve aussi. Un après-midi de mai, Auguste s'aperçut qu'un coquelicot allait ouvrir sa fleur au bord du toit du côté du couchant. Il en conclut que tout allait bien. Juin fut très chaud, juillet torride. « J'espère que tu ne vas pas arroser le toit ?» demandait la mère Ambie. « N'y a pas besoin, » répondait le gars. Avant la fin du mois, la récolte fut bonne à couper. Alors, un de ces soirs allongés, où le soleil ayant disparu, tout l'heure du jour est encore dans le ciel et s'y tient jusque vers minuit, Auguste monta pour la seconde fois sur le toit de la maison et se mit à couper le froment. De la blessure des tiges sortait une odeur de pain chaud. Sur la côte de la Hougue, il y eut, cette nuit-là, des maraîchers et des pêcheurs qui s'éveillèrent et, respirant l'air descendu par la cheminée ou coulant sous les portes, dirent « Quels sont donc les fermiers qui recommencent à chauffer le four et à cuire le pain de la semaine ?»« Oh, c'était bien plus, le pain de toute la vie, celui des fiançailles et du mariage du grand valet de Renivast. » La mère elle-même, autrefois honteuse et rabrouante, s'était proposée pour aider le faucilleur. Son meilleur drap, celui-là même de ses noces anciennes et qu'elle réservait pour sa sépulture, elle l'avait étendu au bas du toit, en l'endroit où tombaient les jours de pluie, les gouttes reformées au bout des chalumeaux. Agenouillée à l'ourlet, elle recevait les javelles que son fils venait de couper et veillait à bien les ranger, tous les épis ensemble, afin que le battage se fît mieux. Parfois, elle écartait de la main et jetait dans la haie des tiges de pariétaire, une pyramide écailleuse de joubarbe qui avait leur domicile ancien dans le chaume, ou encore une pincée de feuilles du nouveau venu, le coquelicot. Elle ne s'ennuyait point, tandis que le moissonneur montait et descendait la pente de son champ suspendu, mais songeait qu'il serait bon d'avoir près de soi une jeune femme et qu'elle céderait volontiers aux époux la grande chambre et la tiédeur du foyer et la chanson du grillon, inutile pour eux, s'ils consentaient à souffrir que la mère habitât encore la maison. Les vieux, n'est-ce pas, doivent acheter l'hospitalité des enfants, elle le savait. Mais tout dépendait de la moisson. Elle disposait, avec amour et crainte, les épis sur le drap. Elle les pesait dans sa main droite, songeant « Pourvu que les trois boisseaux y soient, car je connais la Hartel, pour 100 grammes de moins, elle refuserait sa fille, et même si la condition qu'elle a dite est remplie, elle pourrait bien ne pas tenir parole. » Le fils et la mère se firent batteur en grange. La grange fut la cuisine. Sur le drap qui avait déjà reçu les gerbes, les épis furent frappés et la balle vola jusque sur les armoires. Le lendemain, pendant que la mère balayait la place, le grand valet, au bout de son jardin, cribla le froment. Il en sautait de la poussière au bout du balai. Il en tombait du crible dans le beau courant d'air que la hougue lançait depuis la veille sur les feuilles des ormeaux pour leur apprendre à bien tenir sur la branche. Le jardin, comme la chambre, en fut tout enfariné. Mais sur le drap de la mère Ambie, le froment s'amoncelait du vrai grain de semence, bien formé, bien gonflé, ni trop sec, ni trop mou. Auguste, entre ses bras relevés qui agitaient le crible, regardait au-dessous de lui grossir le tas. Bientôt, par-dessus les groseilliers et les laitues, il cria « Maman, les trois boisseaux y sont !» Et la réserve n'était pas épuisée. Il restait à vanner plusieurs pleines criblées. Lorsqu'on mesura enfin la récolte, Auguste triomphant annonça que le toit de la Pernelle avait produit 4 boisseaux de froment, plus que la meilleure terre de la presqu'île, autant qu'elle était encore labourée et portait des épis en bordure de ses herbages. La mère Le Hartel reçut donc une seconde visite. Un dimanche qu'elle n'attendait personne et qu'assise dans la salle d'honneur, près de la fenêtre ouverte, elle sommeillait, les yeux appesantis par un solide dîner qu'elle venait de faire et par l'odeur d'une douzaine de brins de réséda, chargés de gousses jusqu'au fin bout de la hampe qui fleurissait encore, elle fut éveillée par le braiement tout proche d'un âne. Elle eut peur, se dressa debout, plus rouge encore que de coutume, mit les mains sur l'appui de la fenêtre et se pencha. Devant elle, le grand valet arrêtait l'âne des Triorés de Rénivas et l'âne était chargé de 2 sacs de toile crue. « Excusez, dit Auguste, je vous apporte la récolte de froment, mère Le Hartel. Mon champ a été plus grainant que je n'espérais. J'ai 4 boisseaux. »« Tu prétends avoir gagné le pari, gars de Rénivas. »« Vous pouvez mesurer, répondit-il en frappant sur les sacs. « Et où est-il, ton champ ?» Elle le savait fort bien. Avant que le blé n'eût commencé de jaunir, elle avait fait un tour de promenade du côté de la Pernelle et estimait la récolte à 3 boisseaux pour le moins. Sûre de perdre le pari, elle s'était préparée à dire oui. « Viens que nous causions, dit-elle, la mesurée est faite. Attache ton âne à la poignée de ma porte. » Auguste Ambie ne se fit point prier, l'âne non plus, qui choisissait déjà des pointes d'un rosier grimpant placées près de l'entrée. Le jeune homme acheva de gagner le cœur de sa future belle-mère en lui apprenant qu'il avait déjà commandé les couvreurs et que, dans un mois au plus, le vieux chaume serait remplacé par une toiture de tuiles. Elle devinait qu'on avait un bas de laine, elle se représentait, avec complaisance, qu'un homme qui avait su la rouler, elle, Normande pur sang et réputée, ne pouvait manquer d'aller loin. Et pourquoi ne deviendrait-il pas fermier cotentinais, un de ceux qui passent 300 jours à regarder pousser l'herbe et le reste de l'année à regarder mûrir les pommes? C'était une femme bien approvisionnée en café, sucre et eau-de-vie de marque, la veuve Le Hartel. Tout en causant, elle faisait chauffer un mélange de chicorée et de martinique. Elle versa la liqueur, y mêla de l'eau-de-vie, et les bols, on dit là-bas les moques, furent levés. « À la vôtre, mère Le Hartel !»« À la tienne, Auguste Ambie, tu peux maintenant retourner à Valognes. » La fille fut encore plus facile à décider que la mère. Depuis le jour où Auguste l'avait rencontrée, elle n'avait qu'une crainte, c'est qu'il ne revînt pas. Voilà comment, 15 jours après la récolte du froment sur le toit de la Pernelle, un dimanche, Auguste, sa promise et la mère laveuse qui les accompagnait s'en allèrent à Sainte-Marie-du-Mont où habitait le parrain d'Auguste. Le parrain, ancien maréchal ferrant, fort cassé par le 3-6, avait laissé entendre qu'il léguerait son bien, 12 vergers de près à son filleul, et les raisons ne manquaient point de lui faire visite avant le mariage. Lorsqu'on eut déjeuné dans la petite maison qui ouvre ses fenêtres sur la place, les arbres en ligne et la grande église qui se lève au-delà, le parrain et la mère demeurèrent à deviser, tandis que les fiancés demandaient à la femme du sacristain de les mener jusqu'au haut de la tour, d'où l'on aperçoit presque tout le Cotentin. 200 marches à monter et à descendre. L'ex-maréchal n'aurait pu se hisser même jusqu'au premier palier, et la laveuse préférait ne pas essayer. Auguste et Marie traversèrent donc seuls la place et entrèrent dans l'église, précédés par la sacristaine qui leur dit « Tous ceux qui viennent pour voir la vue, et il y en a, vont d'abord voir le tombeau. Tenez, il est là-bas, dans le chœur, à gauche. » Le grand Auguste s'avança vers l'allée centrale de l'église, ouvrit la balustrade de la table de communion, fit un petit signe de tête bref en passant devant le tabernacle, un peu par politesse traditionnelle, un peu parce qu'il savait plaire à Marie, qui plia les genoux, elle, d'une brusque détente, suivie d'un brusque ressaut, en manière de révérence. Ils s'approchèrent de la muraille de gauche. Il y a là, sous un arceau taillé dans l'épaisseur du mur, la statue de marbre d'un seigneur vêtu de son armure de guerre, agenouillé, jeune encore et de beau visage. C'est un compagnon d'Henri IV, une bravoure, une noblesse, une gloire oubliée de la Hougue. Les deux grands enfants qu'il allait visiter ignoraient tout du personnage, tout de son temps. La curiosité seule, l'envie de faire comme les autres promeneurs, les amenait pour une minute devant le passé. Ils étaient presque de la même taille, du même teint fleuri, du même blond. Ils avaient l'un et l'autre le visage long, les joues plates, l'air indifférent et la volonté cependant d'admirer quelque chose, puisque c'était convenable. Et c'est pourquoi Marie, se penchant, mettant alors la main sur le bras d'Auguste Ambi, son promis, déchiffra peu à peu et lut tout haut, pour Auguste, l'inscription gravée en lettres blanches sur une plaque de marbre noir. Quand elle était embarrassée, à cause de l'orthographe ancienne, qui l'étonnait, elle détournait à demi la tête et la levait un peu vers le grand valet, comme s'il avait été plus savant qu'elle et capable de la reprendre. Il paraissait rêver. Elle lisait « À l'éternelle mémoire de messire Henri Robert aux Espaules, seigneur et fondateur de Sainte-Marie-du-Mont, baron de J, seigneur de Lieure, seigneur d'Ambi. » Marie s'arrêta de lire. Elle mesura d'un regard cet homme près d'elle, son fiancé, et qui eut, aux temps anciens, porté la cuirasse et toute l'armature pesante, aussi aisément qu'il portait la veste et le pantalon en drap d'Elbeuf. Elle regarda le visage jeune et fermé, elle le trouva beau et guerrier, et elle dit « Tu entends, il s'appelait le seigneur d'Ambi. C'est peut-être un parent à toi, dis Auguste. » Elle riait, à moitié seulement. « Ça se peut sans qu'on le sache, » dit l'homme. Comme il répondait cela gravement, ayant le cœur tout chaviré par la présence de celle qu'il aimait et par la voix qu'il entendait, Marie considéra encore le visage d'Auguste Ambi, puis abaissa le regard vers le visage de marbre de messire Robert aux Espaules. Il ne se ressemblait pas. Elle reprit cependant la lecture avec autant d'émotion que si elle avait lu un testament. Conseiller du roi en ses conseils d'État et privés, gentilhomme ordinaire de sa chambre, capitaine de 50 hommes d'armes de ses ordonnances, lequel, dès son enfance, nourrit au service du très invincible prince Henri le Grand, 4e, roi de France et de Navarre, l'assistant en tous les sièges, rencontres et batailles qu'il donna pour le recouvrement de son État, sans avoir souillé ses mains dans le sang-froid ni dans les injustes butins, ordinaire durant le cours de cette guerre civile. Ainsi, sa valeur le rendit l'amour de son roi et sa vertu les délices de sa patrie. Ce qui lui fit mériter que ce monarque honora sa fin d'une longue suite de ses larmes et qu'il ait continué depuis à le regretter, non avec les paroles d'un maître, mais avec les plaintes d'un ami. Il mourut dans le logis de sa majesté, à Fontainebleau, le dernier jour de novembre 1607, âgé de 46 ans, et repose ici. Priez Dieu pour lui. Faut monter maintenant, dit Auguste. Marie ne répondit pas tout de suite. Elle remuait les lèvres. En se détournant, elle mit la main sur la tête de la statue. « Bonsoir, Rambi, » dit-elle tout bas. Il lui plaisait que le nom fût le même. Le grand valet ne l'entendit pas. Ils retrouvèrent la gardienne, adossée à un pilier, dans l'ombre, la clé de la tour sur le ventre, entre ses mains croisées. Ils montèrent, la sacristaine en avant, par l'escalier en spirale. Le grand Rambi faisait du tapage, criait pour faire chanter l'écho, frappait du pied les marches, feignait de tomber et appelait Marie qui le suivait, Marie dont il prenait la main dans l'ombre et qui répétait « Tais-toi donc, nous sommes presque dans l'église encore !» car elle le tutoyait souvent depuis que le mariage était décidé. Quand ils passèrent dans la chambre aux cloches, le fiancé, que la joie exaltait, s'approcha du gros bourdon, leva le poing et les campagnes de la hougue se demandèrent « Quelle est donc cette heure qui sonne ? Celle de la joie, mes beaux amis !» Mais, parvenus au plein jour, là-haut, dans les trois chemins qui fait la couronne bien au-dessus des toits, des jardins, des routes aussi étroites que des brins de chanvre, le grand valet de Renivat s'apaisa tout à coup. Il s'accouda sur la balustrade de pierre, enfonça sa casquette des dimanches, que le vent soulevait, attira Marie tout près de lui. Il n'avait jamais vu tant de Normandie au-dessous d'eux, ni tant d'herbe. C'était le royaume des triolets, en vérité. Tout était vert, non d'un seul ton, mais de tous ceux qui appartiennent à cette couleur vivante. Au-delà des jardins de Sainte-Marie-du-Mont, s'étendaient, tout à plat, des prairies vert clair fauchées nouvellement, d'autres que le regain commençait d'assombrir, d'autres presque brunes, dans les bas-fonds, à cause des traînées de joncs qui s'en vont en tous sens, partout des frondaisons dorment sur les talus, dessinant des rectangles, des trapèzes, ou des formes de cosses de pois arrondies aux deux bouts, et tout cela était sans villages apparents, sans maisons, sans une fumée, et tout cela s'en allait, penchant du côté de la mer, verte aussi et mouvante dans les brumes. Auguste Rambi se trouvait dans son royaume comme le bûcheron dans la forêt. Il avança la main et demanda, d'une voix douce que Marie ne lui connaissait pas, « Vois-tu, là-bas, au nord, la Pernelle ?»« Peut-être bien. Un endroit où il y a une futaie plus grosse que mes deux poings ?»« Oui, je crois la voir. » Cherche à présent, au pied, un petit morceau blond, pas plus gros que ton dé à coudre. « Je le vois. » Il se mit à rire. « C'est chez nous, c'est le toit de ma maison, Marie. Dans un mois, tu y viendras. »« Oui, j'y viendrai. » Seulement, la paille aura été remplacée par de belles tuiles neuves, et d'ici, tous ceux qui viendront après nous demanderont « Quelle est cette maison rose ?»« Sacristaine, écoutez-moi bien, » dit Marie. « Vous répondrez, c'est là qu'habitent Auguste Rambi et Marie Le Hartel, sa femme. » Tous trois, à travers l'espace, deux dont le cœur battait, la troisième que guidait seulement un peu de curiosité, ils regardaient, à l'extrémité du royaume vert, le dernier champ de blé du Cotentin et qui n'avait plus qu'un mois à vivre.